On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Olivier, Antoine, Frédéric et Rémi souhaitent incarner le changement qu'ils aimeraient voir dans le monde. Durant 3 années, ils parcourront la France en vélo à assistance électrique, à la rencontre des acteurs de nos sociétés. L'idée est de créer du dialogue, réaliser des séminaires et étudier la faisabilité de leurs projets. D'ici 3 ans, ils seront prêts à se lancer dans l'aventure de Terra, un éco-village qui s'articulera autour de la citoyenneté, le bien-être, l'alimentation, l'espace et l'énergie, la communication et les activités économiques et culturelles. Tous les 4 présents dans mon salon se prêtent au jeu du micro. Tout de suite, découvrons un peu plus ce qu'est le projet Terra.
Je m'appelle donc Antoine, bonjour. Je suis au sein du projet Terra. Je souhaite mettre en place un projet d'éco-village.
Avant de parler du projet, j'aimerais savoir, je me tourne vers Frédéric, pourquoi es-tu dans cette démarche ?
Je suis dans cette démarche parce qu'après 30 ans d'investissement dans le développement durable et l'économie sociale et solidaire, j'ai acquis la certitude que nous sommes dans un TGV qui ne pourra plus s'arrêter. Et donc j'ai décidé d'en descendre pour essayer, à partir de tout ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire entreprendre, créer donc un lieu qui permettrait de réunir tout ce qui se fait de mieux en matière de développement durable et de gouvernance citoyenne pour essayer de voir si on peut pas redémarrer une organisation sociale respectueuse des humains et de la nature.
Vous êtes 4 dans mon salon, réunis autour d'un projet qui s'appelle Terra, dont on va parler aujourd'hui. Mais avant de parler de ce projet, qu'est-ce qui a fait que tu rejoignes cette idée ?
Je m'appelle Olivier. Ce qui a fait que j'ai rejoint ce projet, c'est pour moi son caractère unique qui est de rassembler à un même endroit des initiatives qu'on trouve un peu partout, mais qui sont isolées les unes des autres. Le souhait de créer une synergie avec toutes ces initiatives, en essayant d'en faire émerger une nouvelle organisation sociale pour un mieux-être pour tous.
Bonjour, alors moi je m'appelle Rémi, je crois que je suis un grand curieux et ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est l'idée de mettre en place quelque chose où la question du travail serait pas le centre de tout et qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place.
Alors vous êtes tous les 4 dans mon salon, vos vélos dans ma cour et sur le trottoir devant une voiture, un minivan avec écrit Terra dessus et Facebook qui nous a reliés aujourd'hui. C'est grâce à un message où j'ai vu que Terra arrivait en Alsace, est passé à Strasbourg, 3 jours à Strasbourg, est aujourd'hui à Colmar pour continuer sa route vers le sud, vers Dijon. Donc Terra, qu'est-ce que c'est ? C'est qui a envie de m'en parler, de me présenter le projet, l'origine du projet ?
Ah oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, en fait, j'ai fait un tour de France en vélo assistance électrique de 2400 km. Et lors de ce tour de France, en fait, dans lequel je voulais faire émerger, en fait, un petit peu les initiatives citoyennes dont on entend très très peu parler dans les médias, j'ai rencontré des gens formidables qui faisaient des choses formidables dans des petites villes de France, dans des petits villages. Et partout en France, en fait, j'ai vu qu'il y avait des entreprises, des collectivités territoriales, des associations ou des collectifs qui, chaque jour, essayaient d'améliorer la société dans laquelle on est et dont personne ou très peu de personnes parlent.
Mais dans quel domaine ? Le domaine écologique, social, économique ?
Oui, tous ces domaines-là, pour aller vite, le développement durable, la cohésion sociale et la citoyenneté. Et en fait, à l'issue de ce tour, en fait, je me suis dit, mais Mais c'est fou quand même, il y a dans tous ces petits villages qui sont en train de mourir, en fait, il y a tout pour vivre heureux. Il y a des terres arables, il y a de l'espace, il y a de formidables éléments naturels qui permettraient de développer une société écologiquement, on va dire, évoluée, je sais pas comment dire. Mais personne ne le fait parce qu'en fait, dans ces villages-là, il n'y a pas d'activité économique. Et donc, mon idée, c'était de dire, ben voilà, il faudrait arriver à prendre ce qui se fait de mieux en matière de développement durable, à le rassembler dans un endroit près d'un petit village, de telle façon à relancer la dynamique économique de ces villages-là à travers des productions durables, respectueuses des humains et de la nature. Et en même temps, essayer de mettre en place une alliance entre une commune qui est en train de mourir, en fait, et une coopérative intégrale qui aurait en charge de produire et de satisfaire les besoins fondamentaux des habitants de ce village. Et suite à cette idée, ben, le projet Terra a germé de la façon suivante. L'idée est que sur 10 ans, on arrive à mettre en place cet éco-village avec une phase de préalable de 3 ans qui servira à recueillir toutes les informations qui nous permettront de construire ce village et de relocaliser à 85% la production. Et en même temps, d'aller enquêter un petit peu partout en France pour savoir qu'est-ce qui se fait de mieux en matière de production durable, de citoyenneté, de telle façon à la fin de ces 3 ans, réunir l'offre et la demande et créer un cahier des charges qu'on évaluera, puis qu'on le chiffrera et qu'on financera pour que la 4e année, on mette en place la construction de cet éco-village. Et à la fin, au bout de ces 3 ans, en fait, l'idée, ce serait de faire suivre le projet par un collège scientifique qui analysera si vraiment on a relocalisé à 85% la production, si on a baissé l'empreinte écologique de ce village, si les habitants de ce village, ben, finalement, ont une vision subjective de leur bonheur satisfaisante, et si les résultats sont positifs. À partir de la 7e année, on créera un centre de formation citoyen qui permettra ensuite d'essaimer toutes les techniques et les méthodes qu'on aura utilisées pour créer cet éco-village et relocaliser sa production.
Donc c'est vraiment une sorte de projet expérimental. On essaie de repartir de zéro pour recréer complètement un système et montrer qu'on peut vivre sur des valeurs différentes. Donc tu parles de durabilité, de localité.
Oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est de faire une expérience à ciel ouvert, en fait, pendant 10 ans, et faire la preuve qu'aujourd'hui, avec ce que l'on sait, avec l'expérience que l'on a en matière de production durable, d'organisation sociale et de gouvernance citoyenne, on est capable aujourd'hui de faire mieux avec moins et enregistrer pour chaque habitant de ce village un sentiment de bonheur au moins égal à ceux des grandes villes aujourd'hui françaises.
Il y a beaucoup d'initiatives citoyennes qui sont mises en place un peu partout dans le monde. Pour donner quelques exemples qui me viennent en tête, on a le fameux Euroville en Inde. J'ai entendu parler récemment du Bhoutan avec la mise en place d'un indice de bonheur intérieur brut qui a remplacé le PIB. Des initiatives beaucoup dans les pays scandinaves. On entend aussi peu parler dans les médias de ce qui se passe en Grèce, mais ou au Portugal, dans des pays qui subissent la crise. On a beaucoup de choses qui se mettent en place. La crise finalement a cet avantage-là, cet intérêt qu'elle oblige entre guillemets les citoyens à s'organiser différemment.
Donc s'organiser différemment, ok, mais Terra, est-ce que Terra offre quelque chose de différent? Tu parles d'Euroville ou tu parles d'autres communautés en Espagne ou au Portugal. Est-ce que Terra se différencie par quelque chose de particulier?
La particularité que je vois dans le projet Terra, qui à mon avis n'a pas encore été expérimenté ailleurs, c'est en fait justement sortir de cette notion de communauté en développant quelque chose en lien avec une commune existante. Et en fait, le lien avec la commune, ça permet aussi de démontrer que un projet tel que celui-là peut redynamiser et réapporter de la vie et de l'énergie dans des zones rurales qui sont en difficulté, et pas simplement de faire un modèle autarcique qui fonctionne bien, parce que ça existe déjà, je pense.
Quand on va sur le site internet de Terra, on voit qu'il y a 3 phases. Là, vous êtes dans quelle phase? Parce que vous n'êtes pas encore du tout les mains dans la terre, vous êtes sur les routes en itinérance. Donc, qui c'est qui peut me parler des différentes phases du projet?
Donc, effectivement, il y a 3 phases. 3 premières années qui concernent le recueil des attentes des citoyens français. La seconde phase de construction et la 3e phase. de création de formation pour que pouvoir diffuser cette expérience à tous ceux qui voudront en profiter. Donc là, on est dans la première phase, dans la première année des trois premières années, donc au tout début. Et ces trois premières années vont se constituer en trois tours de France, un chaque année, l'été à chaque fois pendant un peu plus de trois mois. Donc là, on est dans le premier tour de France. Et le but, c'est vraiment d'aller à la rencontre des citoyens pour recueillir leurs attentes en matière d'éco-village, en matière de vivre ensemble, en matière de gouvernance citoyenne, en matière de production. Tous ces sujets-là qu'on va rassembler au sein de Terra. Le but est aussi de rencontrer des acteurs du produire local, produire durable, pour qu'ils nous fassent part de leur expérience, afin de pouvoir que cette expérience profite à la construction de Terra. L'idée est aussi, pendant cette phase-là, d'aller voir des projets déjà existants qui ont déjà mis des initiatives en place, que ce soit donc encore une fois dans la démocratie, dans la production, dans la mutualisation des ressources, toutes ces initiatives-là. Donc aller voir tous ces projets-là qui sont déjà en train de fonctionner, voir pourquoi ils fonctionnent bien, leurs limites, et pour que tout ça nourrisse le projet Terra et qu'on puisse se servir de ces expériences-là pour les rassembler dans Terra.
Me permettrais juste de parler de l'étape zéro dont Frédéric s'est occupé, qui a consisté à faire ressortir huit thèmes qu'on a récemment combinés en six thèmes, qui sont donc proposés lors des assemblées citoyennes qui sont organisées pour ce Tour de France. Et ces six thèmes, l'idée, c'est de les développer avec les gens, donc lors des séminaires.
Donc des rencontres qui sont organisées sur l'itinéraire, là, c'est ça. Donc voilà. Là, vous étiez hier à Strasbourg pendant trois jours. Donc ces six thèmes qu'on va détailler ont été développés auprès des citoyens rencontrés.
Exactement. On a plutôt bien avancé à Strasbourg. On a récolté de la matière intéressante qui a été, pas dans tous les cas, mais approuvée. Donc les six thèmes, je vais vous les énoncer. Il s'agit de redessiner la démocratie, de bien-être et vivre ensemble. Il s'agit aussi de produire localement le nécessaire. En quatrième objectif, on souhaite mener une réflexion au niveau de l'habitat durable, une mutualisation des ressources. Et enfin, choisir ses activités par le biais d'un revenu de base.
Avant de parler du revenu de base, parce que là, les points, c'est chouette, tu les as énumérés, mais bon, on va quand même prendre le temps de les expliquer, de les détailler un petit peu pour les rendre plus digestes. Donc le point 1, je vais le relire, redessiner la démocratie. Alors déjà, est-ce que quelqu'un a envie d'expliquer ce que c'est que la démocratie ?
Littéralement, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Bon, ça, c'est le... l'étymologie, voilà. Et on peut mettre beaucoup de choses derrière ce mot, et nous on essaie de développer un mode de gouvernance, du coup, qui revienne vraiment aux bases, au fondement de ce terme là donc on a une méthode qui passe par le consensus, le consentement et éventuellement le passage au vote à la majorité qualifiée, c'est-à-dire plus que les 50% plus une voix, qui sont aujourd'hui la base de notre processus, de nos processus de décision. Mais une fois encore, c'est des choses qui sont appelées à évoluer à travers les assemblées citoyennes et au cours de nos rencontres pendant les trois prochaines années.
Explique-moi comment est-ce que tu verrais ton système de démocratie.
Alors, mon système de démocratie, je n'irai pas juste
votre
là.
Système de démocratie.
En tout cas, le système qu'on a mis en place jusqu'à présent. La première chose que je trouve intéressante, c'est de partir du principe que si on doit passer au vote, c'est que le consensus n'a pas été atteint, que le processus n'a pas été mené jusqu'au bout. Donc, l'idée de base, c'est que pour chaque proposition, plutôt que de demander qui adhère à la proposition, on demande qui objecte. S'il n'y a pas d'objection, la proposition est adoptée au consensus.
Oui, je crois que ce qui est important dans la méthode du consensus, c'est en fait que c'est la seule qui peut légitimer les décisions qui sont prises autour du bien commun. Quand on parle souvent de bien commun ou des biens communs, s'il y a bien commun, ça veut dire qu'ils appartiennent à tous ceux qui forment ensemble cette société. Et donc, comment décider ce qui est le bien commun autrement qu'au consensus? C'est pas possible, puisque à partir du moment où une personne objectera, ça peut plus être le bien commun de la communauté, ce sera la communauté moins cette personne-là. Donc la seule légitimité d'une décision qui touche le bien commun, c'est qu'elle soit votée au consensus. Après, on peut effectivement passer au consentement, si jamais il y a une objection par rapport à ce bien commun, mais la personne qui aura mis cette objection doit être la seule à pouvoir la lever. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas intégré l'objection dans la décision du collectif, bien cette objection, elle est portée par celle de la personne qui l'a mis, et il ne la retirera que si on a pris en compte cette objection. Et après, effectivement, si vraiment on n'y arrive pas, alors effectivement, il y a un vote à la majorité qualifiée. Mais comme le disait très bien Rémi, un vote à la majorité qualifiée, ça veut dire que un tiers peut-être, puisque souvent on parle de deux tiers des voix dans un vote à la majorité qualifiée, mais ça veut dire que peut-être un tiers ne sera pas d'accord. Alors, où est la décision du bien commun quand un tiers d'une communauté n'est pas d'accord avec ce qu'est le bien commun? C'est pour ça qu'on légitime cette méthode de gouvernance, parce qu'on pense que c'est la seule qui est légitime. Et d'ailleurs, dans le contrat social de Rousseau, il l'exprime très bien en disant que la volonté générale ne peut s'exprimer que si toutes les parties prenantes de la société sont présentes, et elle ne peut être représentée. La volonté générale ne peut être représentée. Chacun en détient une parcelle, et donc tous les membres de la communauté devraient pouvoir s'exprimer sur une loi qui touche au bien commun.
Donc revoir le système de gouvernance, mais il y a d'autres points, donc on va essayer de les aborder quand même les uns après les autres. Terra, le bien-être, le vivre ensemble.
Sur le bien-être et vivre ensemble, en fait, le travail qu'on a fait, parce qu'en fait, ces principes sont nés d'un travail qu'on a fait pendant presque un an et demi avec une quinzaine de citoyens, justement, consensus ou consentement aux deux tiers des voix, pour déterminer quelles seraient les missions principales d'une commune telle qu'on se l'imaginait. Et il y a une chose qui est revenue assez rapidement, c'était de dire que aucune décision d'une commune ne peut être prise si elle remet en cause la santé des vivants, de tous les vivants. Donc cette idée de bien-être et vivre ensemble, elle appuie cette idée qu'une commune, avant même de prendre une décision, doit s'interroger sur savoir si ces décisions-là peuvent remettre en cause la santé des citoyens, mais pas seulement ceux qui sont ici et maintenant, les générations futures incluses. Et ça me fait penser d'ailleurs à ces tribus aborigènes qui prennent des décisions des fois en convoquant les générations futures avec des rites symboliques. Et lorsqu'ils ont une décision qu'ils pensent importante, eh bien ils se mettent en relation en quelque sorte avec les générations futures pour savoir s'ils sont d'accord sur les décisions qu'ils vont prendre. Eh bien nous, on va pas invoquer les générations futures, mais on va quand même s'inquiéter de savoir si les décisions qu'on va prendre vont impacter la santé des citoyens d'aujourd'hui et des citoyens de demain. Et dans la notion de bien-être, de vivre ensemble, il y a une autre qui est très importante, c'est la notion de bien-être. Et le bien-être, c'est quoi? Ben, c'est la capacité qu'a un citoyen à être bien dans sa vie, bien dans sa commune. Et donc, pour qu'il soit bien dans sa vie et bien dans sa commune, il faut qu'il puisse suivre des activités qu'il réalise, et donc qu'il ne subisse pas forcément ces activités-là. Et à partir du moment où le citoyen sera bien avec lui-même, ben, il y a de fortes chances que après les relations qui se passent avec les autres citoyens amènent à vivre ensemble. Et donc pour nous, c'est très important que les décisions de la commune intègrent à la fois la partie du bien-être et la partie cohésion sociale.
Par rapport donc à la production locale, visant à assurer le nécessaire, il y a une grosse réflexion qui doit être faite sur les besoins de base. Il faut les déterminer et être capable d'équilibrer en fait la production et la transformation. Il y a une balance qui doit se faire. Parce qu'on parle de repartir à zéro, mais on va avoir une commune, comme on parlait tout à l'heure. Donc il va y avoir des transformations qui vont pouvoir être faites sur du bâtiment central qui servirait pour des habitats collectifs. Il va y en avoir d'autres qui vont être entièrement repensés et reconstruits. Et la notion de production locale, là, concerne essentiellement la nourriture. Donc on s'intéresse beaucoup à la permaculture.
Pourquoi est-ce que tu proposes d'autres modes de production que ceux qu'on a aujourd'hui, actuellement, dans le système dans lequel on vit?
Alors, on arrive avec une diminution des ressources pétrolières. Il faut savoir que toute notre industrie a été basée sur le pétrole, avec les engrais chimiques, par exemple, qui ont beaucoup été utilisés dans la monoculture. Donc, on est sur le fond des réserves. Et donc, il est intéressant de voir comment les espèces végétales s'entraident sans utilisation d'engrais chimiques. Donc, ça va être plus intéressant pour le producteur de limiter ses frais chez Monsanto, par exemple, et d'observer lui-même cette synergie qui va renforcer son écosystème, l'écosystème qu'il souhaite mettre en place.
Et la réflexion autour justement de produire le nécessaire et de autour de l'autonomie, elle passe aussi par la question de l'autonomie énergétique. Et pour ce qui est de l'autonomie énergétique, il nous a paru primordial de réfléchir autour d'un habitat qui soit peu coûteux en énergie, de façon à pouvoir à produire un environnement qui soit en fait simplement soutenable au niveau écologique. C'est-à-dire que un des aspects auxquels on fera très attention et qui nous permettra de déterminer si le projet Terra est un succès, c'est de ramener la consommation globale l'empreinte écologique de l'éco-village en dessous d'une planète. Donc ça passe par redéfinir la notion de nécessaire, ça passe par une relocalisation des productions et ça passe aussi par une réflexion autour de l'habitat.
En fait, vous êtes vraiment les créateurs d'un nouveau modèle, quoi. Vous avez envie de montrer en France, à travers Terra, qu'on peut vraiment repenser complètement nos modes de vie, mais dans tous les domaines, quoi. C'est génial, bravo. En tout cas, c'est chouette ce que vous êtes en train de faire. J'espère qu'il y aura beaucoup de rencontres qui se feront sur le chemin, qu'il y aura de l'écho par rapport au projet que vous êtes en train de monter. J'aimerais qu'on continue de parler des points. Donc, il y avait le mutualiser nos ressources. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on met là-dedans ?
La problématique de mutualisation des ressources, elle peut être exprimée, illustrée assez simplement. Tout le monde a chez soi un certain nombre d'objets qu'il n'utilise qu'un temps très court dans la semaine, voire dans l'année. Prenons une machine à laver, on l'utilise combien de fois en moyenne? 2 heures, 4 heures peut-être par semaine. Prenons un marteau, c'est combien? C'est 2 heures par an. Voilà, donc il y a un certain nombre d'objets qui peuvent être mutualisés. Et plutôt que tout le monde ait un marteau chez soi, il vaut mieux un marteau. Donc on se passe à tour de rôle, ça économise les ressources, ça permet de créer du lien entre les gens. Voilà, c'est ça l'idée de la mutualisation.
C'est mieux aujourd'hui de partager que de produire sans cesse des marchandises, des biens qui vont être usés une fois et puis qu'on va jeter, et tout ça pour maintenir de l'emploi, créer du chiffre d'affaires, dégager des marges et alimenter les marchés financiers, qui, je le rappelle aujourd'hui, occupe 98% de nos transactions en monnaie, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à peine 2% de ces transactions servent à l'économie réelle. Et donc, toutes ces ressources qui sont déversées en permanence sur les marchés uniquement pour faire du profit, non, je crois qu'on peut aujourd'hui arriver à avoir la même sensation de bonheur, parce qu'il ne s'agit pas encore une fois de revenir avec une bougie dans une grotte, mais je pense qu'on peut avoir la même sensation de bonheur par l'usage plutôt que par la propriété. Et sur Terra, on veillera aussi à ce que, par exemple, les voitures soient partagées avec des outils informatiques qui permettent de réserver sa voiture quand on en a besoin, avec les ressources aussi énergétiques, comme par exemple en réutilisant les déchets verts pour faire du méthane, méthanisation qui servira après à produire du gaz, ce gaz permettant de faire circuler des voitures ou des petits bus sur les Quamo, mais aussi qui permettra aussi par les déchets verts de réinjecter ou par exemple les déjections humaines, de réinjecter ces déjections à travers un système de phytoépuration dans les champs qui permettront ensuite de faire pousser nos tomates. Donc tout ce système pensé au départ de telle façon à produire le moins possible de déchets, à avoir de moins en moins de redondance dans les ressources et avoir le plus possible la possibilité de partager ça entre nous, va abaisser nos besoins en termes de temps de travail et en même temps va nous redonner beaucoup de temps libre pour nous occuper de choses essentielles qui, elles, ne se comptent pas.
Et je crois que aussi dans la mutualisation, il y a une grande part qu'il faut pas oublier, qui d'après moi est primordiale, c'est la mutualisation des ressources intellectuelles. C'est-à-dire qu'une grande une part importante de ce projet d'éco-village, c'est aussi de favoriser l'autonomie. Et l'autonomie, elle passe donc d'une part par l'accès aux ressources matérielles, mais également par la formation et par la, j'allais dire l'éducation, mais c'est quelque chose de cet ordre-là, qu'il faut que toutes les connaissances disponibles individuellement puissent être mises en commun de façon à ce que toutes les personnes qui veuillent y avoir accès puissent y avoir accès. Voilà. Donc la mutualisation, ça ne concerne pas que les ressources matérielles.
Choisir nos activités, l'idée c'est de mettre en place un revenu d'autonomie qui permette à chacun de se consacrer à l'activité de son choix, qu'elle soit que ce soit une activité marchande ou non. Actuellement dans notre système, on est obligé d'avoir une activité qui soit marchande. Sans activité marchande, on n'a pas de revenu, et sans revenu, on peut pas se nourrir, on peut pas se loger, on peut pas se chauffer, on peut pas s'habiller. Bref, on est à la rue. On peut pas vivre. Le revenu d'autonomie, le but, c'est à partir de la production locale qu'il y aura sur terrain, c'est que cette production locale soit redistribuée aux citoyens sous forme d'un revenu d'autonomie qui sera de 814 euros par mois, donc l'équivalent de 814 euros par mois versé en monnaie complémentaire. Et ce revenu permettra aux citoyens de choisir l'activité de leur choix, que ce soit une activité marchande ou non. L'idée qui est à travers ça, c'est d'enlever le travail comme valeur centrale de notre société pour mettre autre chose, la culture notamment.
Je vais me tourner vers Frédéric. J'aimerais que tu t'adresses à un enfant. Voilà, on va dire, tu as devant toi un enfant de 10 ans qui se pose des questions. Qui aimerait un peu comprendre le monde dans lequel il vit, et il aimerait comprendre pourquoi est-ce que tu lui proposes autre chose et que tu lui expliques ce que tu lui proposes.
Alors mon cher ami, ce que je veux te dire, c'est que j'aimerais mourir dans la société dans laquelle j'aurais aimé naître. C'est-à-dire que pour moi, il me paraît évident qu'un être humain qui arrive dans le monde doit disposer de tous les moyens pour pouvoir expérimenter le chemin de son propre bonheur, dans la mesure où il respecte les humains et la nature. Ce qui me paraît évident aujourd'hui, c'est que tout être humain devait naître dans les conditions maximales qui lui permettent d'expérimenter le chemin de son propre bonheur, parce que une fois qu'on a satisfait nos besoins fondamentaux, on recherche tous à expérimenter le chemin de son propre bonheur. Et la République même, le fondement de la République, ça a toujours été de créer les conditions de l'émancipation. Et l'émancipation, qu'est-ce que c'est? C'est une fois que le bien commun est assuré pour tous, qu'on a tous contribué à l'assurer, alors chacun retrouve sa liberté. Et c'est cette liberté qui est importante dans une société. Parce que sans cette liberté de pouvoir ensuite choisir l'activité qui va me réaliser, je resterai toujours une prothèse à un appareil de production. Donc c'est extrêmement important que la société, la République, offre à tous ses citoyens la possibilité de choisir son activité, non pas pour avoir un revenu, mais parce qu'elle aura un revenu. Et donc, pour qu'on arrive à faire ça ensemble, il faut absolument qu'on donne à chaque enfant les moyens de production pour qu'on puisse produire ce dont il a besoin pour vivre. De quoi se loger, se nourrir, se vêtir, s'informer, être en bonne santé. Et une fois que ces biens sont assurés, le contrat est terminé, le contrat social est fini. Chacun reprend sa liberté. Aujourd'hui, je suis malheureux. Je suis malheureux parce que je vois autour de moi des gens qui tous les jours meurent de ne pas avoir assez dans un monde où il y a trop. Et ça, pour moi, c'est insupportable. C'est insupportable de savoir aujourd'hui qu'on pourrait nourrir, loger, vêtir, informer tous les habitants de la planète et que finalement, tout ça est gaspillé pour des raisons financières ou des raisons politiques de rapport de force. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que on puisse à nouveau aujourd'hui mettre les entreprises au service de la production de biens qui permettraient à tous les gens de vivre dignement dans une société respectueuse des humains et de la nature.
Et comment rendre ça possible ?
Ben pour moi, en arrêtant de penser que c'est les puissants qui vont le faire, soit parce qu'on leur a mis sur la figure, soit parce qu'on les aura convaincus qu'il faut qu'ils le fassent, mais simplement en le faisant nous-mêmes. C'est-à-dire en disant, bon ben voilà, de quoi on a besoin de ça, ben alors organisons-nous pour le produire. Je crois que le moment vraiment changera, à partir du moment où les citoyens diront, oui, je le prends en main, maintenant, j'attends pas la prochaine élection, j'attends pas le Messie, j'attends pas le prochain homme politique qui aura tout compris et qui va tout faire bien. Je le fais maintenant. Et parce que nous serons suffisamment nombreux à l'avoir fait maintenant, alors la société, naturellement, apparaîtra de ce que nous faisons.
Et quand on se rendra sur le site de terra.coop, on verra cette phrase de Gandhi, « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde », donc ce qui reprend ce que tu viens de dire à ton enfant de 10 ans, donc Terra, c'est sur les routes tout l'été. Ce sera ça pendant 3 ans. Hein, 3 ans d'observation, de rencontres, d'échanges, de partage, d'études, avant, à terme, de trouver un lieu, s'y installer et développer les 6 points qu'on vient de traiter dans cette émission. Merci à vous, en tout cas, bonne route. Et avec toutes les belles rencontres que vous ferez cet été et sur le chemin de la vie. Merci.
On inspire. On expire. On respire, on souffle.
Carbone zéro,
une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent plus rond. Thank you.